Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec Hervé Gocho, membre du CSA, et nous allons parler de la fête de la radio qui va célébrer ses 100 ans. Et on va connaître tout le programme dans un petit instant. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles Gansman. Bonjour Hervé Gocho, merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir.
Moi aussi, merci
pour
votre accueil.
Vous êtes membre du CSA depuis 2019 et on est d'autant plus content de vous avoir que c'est pour un anniversaire, pas le vôtre. On va fêter le lancement du compte à rebours de la fête de la radio. C'est aujourd'hui, donc c'est quasiment un scoop Sud Radio, c'est aujourd'hui que le CSA va annoncer donc le lancement de cette fête de la radio. Ce sera dans la semaine du 31 mai et il y a une multitude de choses qui vont être organisées pour célébrer à la fois les 100 ans et les 40 ans de la FM. Très important, gros bouleversement dans le monde de la radio. Et Gilles, vous avez posé une question.
Et oui, on s'est demandé, alors évidemment on va parler de l'évolution de la radio avec le DAB, avec la technologie. Alors on s'est demandé où vous écoutiez, en tout cas, quel était le support sur lequel vous écoutiez la radio. Alors vous pouvez aller répondre à notre sondage sur le site Twitter de Sud Radio, sur notre compte Twitter. Alors on a proposé la radio et l'autoradio évidemment, les enceintes connectées, le téléphone et la télévision. Et vous savez ce qui arrive en premier ?
À la radio.
Ouais, absolument.
Bah oui.
Les gens écoutent la radio sur la radio, c'est un scoop.
Oui, mais moi, ça m'étonne un peu, parce que je vais vous dire, alors déjà, j'étais allée dans une grande surface pour acheter un transistor, donc déjà, le vendeur ne savait pas ce qu'était un transistor, le mot est totalement visiblement obsolète, et il y a très peu de postes de radio comme on a eu, donc je suis assez étonnée.
Il va y en avoir de plus en plus, maintenant, qui sont en plus de ça équipés, donc avec la nouvelle puce DAB pour recevoir la radio numérique, mais ça m'étonne pas du tout, parce que l'Observatoire de l'équipement des foyers, qui est présidé par le CSA, confirme ça. Quand on pose la question en disant quel est votre premier support pour écouter la radio, c'est la radio à 75%. Donc, même si il y a beaucoup d'autres usages qui vont en
augmentant. Nous, on a pas mal d'auditeurs qui nous suivent, et merci à eux, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, plus de 300 000 abonnés. Facebook également, et il y a une interaction. Aujourd'hui, on est filmé, donc la radio, est-ce que c'est toujours de la radio quand on est filmé?
En tout cas, le téléphone arrive à 35%, et les enceintes connectées et la télévision, puisqu'on peut écouter la radio sur les box, 6%, et puis Subaru nous dit, c'est pratique le téléphone parce que ça permet de télécharger des applications de radio et puis de découvrir d'autres radios. Elle a découvert par exemple une radio suisse qu'elle ne connaissait pas.
Donc, oui, c'est vrai que ce sont d'autres modes d'écoute de la radio. Ouais. Sur le smartphone, ça permet, on peut comme ça écouter la radio en mobilité si on est dans les transports en commun ou si on marche dans la rue. Il y a les autoradios évidemment.
Voiture,
Les enceintes connectées, autant c'est extrêmement développé aux États-Unis par exemple. En France, ça met encore un peu de temps à arriver.
Mais la radio suisse, elle n'est pas régulée par le CSA, donc je peux faire tout ce que je veux.
Sur Internet, sur les radios qui sont exclusivement disponibles sur Internet, effectivement, le CSA n'a pas de régulation particulière. Nous régulons les radios qui sont disponibles sur la FM et sur le DAB+. Et puis, par extension, ensuite, comme elles sont également présentes sur des applications sur Internet, forcément, on les régule d'une certaine manière.
Stéphane nous dit, je cherchais un ghetto blaster et je n'en trouve pas. Ça coûte très très cher maintenant. Vous savez, c'est
collector maintenant
de radio, absolument.
Que les rappeurs se mettaient sur l'épaule.
On a tous eu ces énormes
les bumpers
de radio,
qui étaient portés à l'épaule.
Et puis on pouvait mettre ses cassettes. Justement, je vais vous emmener dans la nostalgie, Valérie.
On passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Je vous ai fait un zapping radio, madame. Je vous ai fait un zapping nostalgique.
Vous ne parlez pas de la concurrence, quand même.
si, bien sûr que si, mais évidemment, vous allez voir. La radio va fêter ses 100 ans, et en 1951, Valérie, il y avait une petite radio d'Andorre qui allait conquérir la France, elle s'appelait
Sud Radio.
Sud Radio, et bien avant la FM, Valérie, elle était sur les ondes courtes.
Sud Radio, 360 mètres.
Et puis en mars 86, Sud Radio est arrivé sur la FM. Les jingles se sont pas modernisés pour autant.
Festival de le jingle.
Ah ben oui, vous allez voir. Ah, les années 80 où il avait les FM, on se mettait aussi de la reverb, vous savez, sur nos voix. On avait des voix chaudes comme ça à la radio, comme sur Énergie. Énergie a été vraiment au tout début de la FM et ça donnait ça.
Salut, unleash your come out at night. C'est Peter Brown dans Platine Tonic. Je sais pas comment il fait pour avoir la moustache si brillante, Denis. Peut-être qu'il utilise la même chose que pour les meubles. En tout cas, on le retrouvera à midi et demi pour le flash d'information à la place d'Éric Perrin.
On est bien.
Ok, oui.
On reconnaît hein, le ton de la FM, vraiment différente. Et vraiment, Énergie a apporté ce ton-là. Et oui, la FM, Valérie, vous en parliez, c'est les jingles, les habillages. Pourquoi il y avait des jingles et des habillages ? Parce que, on était, vous savez, sur le tuner à essayer de trouver la fréquence. Et donc, pour être sûr qu'on était sur la bonne fréquence, eh bien, il y avait ces jingles qui ont, qu'on connaît tous. Là, on est vraiment dans la fête de la radio, Hervé. Hein, je vous gâte.
Oui, mais c'est très sympa. D'abord, ça rappelle quand même qu'à chaque époque a son son. Et qu'effectivement, on voit bien qu'il est là à écouter tous ces jingles et même le ton des animateurs. Il y avait vraiment un son des années 80. Et juste pour revenir sur Sud Radio en Andorre, Sud Radio était à l'époque, vous le savez, ce qu'on appelait une radio périphérique. Pourquoi périphérique ? Parce que c'était des radios qui, pour pouvoir émettre sur la France, sans tomber sous les fourches caudines du gouvernement qui avait le monopole à l'époque, émettait depuis l'extérieur de la France. Donc c'était Sud Radio en Andorre, c'était Europe 1 en Allemagne, c'était RTL au Luxembourg. Et donc elles étaient à l'extérieur de la France en émettant avec des émetteurs très puissants sur la France. C'est pour ça qu'on appelait ça des radios périphériques.
Europe 1 est né en Allemagne ?
Alors Europe 1 émettait depuis l'Allemagne à l'époque, oui, absolument.
Ah, je ne savais pas. Ouais. Et puis évidemment, les jingles qu'on a tous en mémoire, ce sont les top horaires.
Oui.
Voilà, ça nous parle. Hein,
dans l'ordre,
ça.
C'est Europe 1, RTL et Énergie.
Absolument, bravo Hervé. Et puis, le service public n'est pas en reste. Nous sommes le 2 juin 1980 et est créé Radio 7. Il est 7h du matin et voici les débuts de Radio 7 avec au micro. Vous savez qui a lancé Radio 7, Valérie ?
Non.
Eh bien, c'est Clémentine Sellarier qui est très heureuse, vous allez voir, d'être là. On l'a pas. C'est dommage. Il y avait Clémentine Sellarier, je vous le ferai écouter. Donc voilà, c'était mon petit zapping pour fêter la fête de la radio que va nous annoncer Hervé. Donc.
On va en reparler. C'est quoi votre souvenir de radio, vous
Comme auditeur
Oui, comme auditeur.
Comme auditeur.
Justement sur la FM.
Alors,
je sais que j'écoutais
l'un de mes grands souvenirs de radio, c'est quand j'étais petit, j'écoutais avec ma maman à la mi-journée les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un grand souvenir de radio. Après, il y a plein de voix qui nous ont sans doute tous marqués. Aujourd'hui, moi, je suis toujours un très, très gros consommateur de radio. Et puis, j'ai commencé, en fait, ma carrière, si j'ose dire, parce qu'à l'époque, j'étais lycéen comme animateur radio.
Sur une radio libre
Sur Énergie et ensuite sur Fun. Alors, c'était en 85, c'était peu de temps après la libération de la bande FM. À l'époque, les radios étaient encore... c'était des radios franchisées. Hein. On prenait des radios... local et on les estampillait avec des jingles et voilà. Et donc c'est comme ça que moi j'étais lycéen et je me suis retrouvé animateur sur Énergie puis sur Fun. Et pendant que tous les copains allaient jouer au foot le dimanche, moi je faisais 6 heures de pouce-disque, comme on disait à l'époque.
Est-ce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les radios n'étaient pas libres et on essayait d'écouter des radios qui émettaient en toute illégalité. Énergie a commencé en toute illégalité.
Moi, je n'ai pas connu cette époque, j'étais trop jeune, mais j'ai connu comme auditeur.
Ça me fait plaisir.
Non, mais j'ai connu comme auditeur, je vous rassure, je n'ai pas connu comme animateur. Effectivement, il y avait ce qu'on appelait les radios pirates ou radios libres, qui avaient d'ailleurs parfois des tendances avait des couleurs particulières. On se souvient de Carbone 14, bien sûr, où avait démarré Jean-Yves Lafesse. Et moi, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est de me rendre compte que beaucoup de patrons de radio d'aujourd'hui sont des gens qui ont commencé parfois très jeunes, à 14 ou 15 ans, dans le grenier de leurs parents, avec des émetteurs qu'ils étaient allés chercher ça ou là, et qui faisaient de l'antenne comme ça, parce qu'ils avaient déjà cette passion de la radio. Et aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent les radios de la bande FM qu'on écoute.
On va en reparler, évidemment. Et alors, on a une auditrice qui nous dit, moi, ce qui m'embête, alors bon, je l'ai perdu parce que les messages disparaissent, elle a le sentiment qu'avec le DAB, on ne va plus avoir le même choix qu'avant.
Alors, c'est le contraire. On va avoir beaucoup plus de choix qu'avant. Pour l'instant, on est dans une période où c'est vrai que...
Alors, je vous lis, elle dit, ce qui m'embête, c'est comme les portables, plus de cabine, le fixe disparaît. Dans quelques années, on n'aura plus le choix d'avoir qu'une radio DAB+, la FM disparaîtra. Mais donc, non. Moins de choix, ma petite radio bien efficace ne le sera plus.
Alors
justement, c'est peut-être expliquer. Oui.
Il y a plusieurs choses dans la réflexion de cette auditrice. D'abord, on est dans une période de montée en puissance du DAB+, donc le DAB+, un acronyme que les Français ne connaissent pas encore très bien, mais qu'ils vont connaître justement grâce à la fête de la radio, qui est donc la radio numérique terrestre, comme il y a la télévision numérique terrestre. C'est le même type de technologie qui permet d'avoir un meilleur son, qui permet de ne plus avoir les brouillages, les interférences, vous savez, quand on change de fréquence, etc. Donc c'est de meilleure qualité, quand on est en voiture notamment. Et donc il y a deux choses à répondre à cette auditrice. D'abord, l'avantage du DAB+ par rapport à la TNT pour la télévision, c'est que ça cohabite très bien, parce que c'est pas sur la même bande de fréquence que la FM. Donc d'accord. Pour l'instant, la FM n'est absolument pas menacée. Tant qu'il y a de l'usage pour la FM va continuer et les gens continueront d'écouter des radios en FM. Et puis, parallèlement à ça, donc, le DAB+ est en train de se déployer. Et la particularité du DAB+, c'est qu'il y a beaucoup plus de place sur la bande dédiée au DAB+, que sur la bande FM, qui aujourd'hui est saturée. Aujourd'hui, si vous voulez créer une nouvelle radio, vous n'avez plus de place sur la FM pour créer. Ou si vous êtes une radio qui veut étendre sa zone de couverture, ça n'est pas possible. Avec le DAB+, il y a beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, on a des radios qui se créent aujourd'hui uniquement sur le DAB+. Je pense à Crooner, je pense à Pitchoun.
Et donc, ce sont des écoutes.
N'est-ce pas ? Mais moi, j'écoute tout, vous savez. J'écoute absolument tout.
Ah ouais, Crooner, oui. Jean-Baptiste Touzet qui dirige cette radio, qu'on salue, qui est une radio qui est consacrée au crooner, absolument.
Et donc aujourd'hui, vous avez quand même plus de 350 radios qui sont disponibles sur DAB+, il va y en avoir de plus en plus, et sur ces radios, vous en avez une sur cinq, qui est une radio qui a été spécialement créée à l'occasion du DAB+, ce qui n'aurait pas été possible sur la FM. Donc, deux fois non à notre auditrice, mais plutôt avec des bonnes nouvelles.
Il va y avoir plus...
La FM ne va pas s'éteindre de sitôt. Peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien. En tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui. Et deux, le DAB+, au contraire, ça va permettre d'avoir encore plus de radios qu'avant.
Et puis, il faut dire qu'on verra les noms s'afficher, on n'aura plus besoin des fréquences. Et puis, quand vous aurez une radio, elle vous suivra tout le temps, vous n'avez plus à changer de fréquence.
C'est marrant parce que ça évoque beaucoup de choses pour nos auditeurs qui nous disent « Ah, Radio Caroline, Radio Lézard, Radio Barbe Rouge à Toulouse. »
Ah mais oui, Radio Barbe Rouge,
Radio Cœur d'Acier en Lorraine.
Voilà, donc tous nous y vont de leur de leurs souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Donc, cette fête de la radio, ça va consister en quoi exactement ? Donc, coup d'envoi aujourd'hui, ce sera le 31 mai.
Ce sera à partir du 31 mai, pendant toute une semaine. Donc, ça va être une grande fête où, effectivement, on va célébrer les 100 ans de la radio, parce que la première émission de radio a eu lieu à la Tour Eiffel. C'était Radio Tour Eiffel en 1921.
24 décembre 1921.
Exactement. Et puis, on célèbre également, effectivement, en 1981, la libération de la bande FM, qui a permis à la bande FM de ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a énormément évolué en 40 ans. Et ça, c'est une partie commémorative, si j'ose dire. On a l'œil dans le rétroviseur. Et puis, on a les deux yeux droit devant nous. Ça va être aussi l'occasion justement
de parler de la
radio numérique, le DAB+, mais aussi de l'essor des podcasts, de l'éditorialisation, qu'est-ce que doit être la radio d'aujourd'hui pour rester fidèle au goût des auditeurs. C'est à la fois un média qui est très puissant, puisqu'on a quand même 75% d'audience, 40 millions d'auditeurs chaque jour sur toute la France qui écoutent la radio pendant 2h45 chaque jour, donc c'est très puissant. En même temps, on sait qu'il y a aussi une baisse des audiences d'année après année, donc ça pose des questions. Ouais. Et on va profiter donc de cette fête de la radio pour retourner au contact des auditeurs. Alors, sur les antennes, chaque radio va pouvoir se floquer, si j'ose dire, aux couleurs de la fête de la radio, mettre en avant des grandes voix, mettre en avant son patrimoine avec
ses archives,
comme vous venez de le faire très bien, Gilles. Ça va être aussi l'occasion, éventuellement, de sortir. Ce sera peut-être difficile de faire venir les gens dans les studios, de faire des journées portes ouvertes, parce que vu la situation sanitaire, c'est incertain. Et puis parfois, les studios sont un peu petits, mais on aura la possibilité de sortir, de faire des animations dans les rues, sur des places, sur des marchés, pour aller au contact des auditeurs. On va avoir un bus qui va circuler dans toute la France, qui va commencer à circuler avant la fête de la radio, qui continuera après, où on va raconter l'histoire de la radio et on va sensibiliser les gens au DAB+.
Il y aura des t-shirts et des stylos dans le bus.
Oh, mais sûrement, oui, il y aura des goodies, comme
moi
on
je
dit.
Je veux le porte-clés, je veux le t-shirt.
Vous l'aurez,
de la radio.
C'est promis. Et puis, la radio dans son ensemble, et ça va être sur toute la France, sur tout le territoire, mais y compris en Outre-mer, où la radio est un média qui est extrêmement important dans les Outre-mer, la radio va être accompagnée par la télévision, par exemple, puisqu'il y a des groupes intégrés, vous savez, qui font et de la télé et de la radio. Donc, la fête de la radio va être accompagnée aussi en télé. Il va y avoir une web-série qui va être fabriquée par Lina et qui va être mise à disposition. Il va y avoir, avec la complicité de Laurent Ruquier et de France Télévisions, que nous remercions l'émission, la célèbre émission Les Enfants de la télé, qui va se transformer Les Enfants de la radio, pour une fois, évidemment. Voilà, il va y avoir plein d'animations. Pendant une semaine, ça va être la fête, et puis en espérant que ça n'est qu'une première édition et que dès l'année prochaine, on pourra recommencer.
Alors Valérie, on va pouvoir continuer dans les archives. On a retrouvé le lancement de Radio 7. Écoutez Clémentine Sélarié. Ah ouais. Et c'était, alors au tout début, c'était nous sommes le 2 juin 1980.
Salut les 7.
Bonjour, c'est Radio 7.
Lundi 2 juin 1980.
Sur 99,7 MHz.
En modulation de fréquence, bien sûr. Salut Jean-Pierre.
Bonjour Clémentine.
Ça va ?
Ça va très bien.
On a le cœur qui bat une allure et on pouvait pas savoir. Salut Alain. Alain à la console ce matin.
Voilà, c'était Clémentine Sélarié qui était très heureuse. Et puis, on a toujours ce son un peu spécial de l'AFM, la façon de s'exprimer et de parler. C'est vrai que les autres radios étaient un petit peu plus guindées, en fait.
Oui, c'est ça. C'était des radios qui étaient plus statutaires, plus installées, alors que l'AFM a été vraiment dans la droite lignée, justement, de ces radios libres, où on avait pris l'habitude, justement, d'être libre derrière le micro. Et puis, il y a cette magie, quand même, de la radio qu'on connaît tous. C'est-à-dire que quand on est derrière le micro, d'abord, on est... D'une certaine manière, on est dans l'intimité. Le studio, c'est jamais très grand. C'est pas comme un plateau de télé avec les projecteurs, avec le maquillage, avec beaucoup de monde, etc.
Il y a quelque chose d'intime.
Et les gens qui nous écoutent, ils sont eux aussi dans l'intimité parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur salle de bain, en train de prendre leur douche. Et en fait, ces deux intimités se rejoignent. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la magie de la radio, qui fait que... j'étais donc animateur il y a très longtemps, mais chaque fois que je me retrouve derrière un micro, je retrouve ce plaisir, cette convivialité de la radio.
Alors, on a beaucoup d'auditeurs à qui ça rappelle des souvenirs. Moi, l'auditeur nous parle de Rocky Chignol, celui qui n'a jamais eu de bol et qui n'est jamais à l'école. C'était sur Radio 7. On le salue s'il nous écoute. Xavier nous dit, à l'IUT de journaliste de Bordeaux, en CTU, j'avais ma radio pirate, Radio Nisia, que j'avais montée avec Serge Martin, journaliste de France Inter, ancien correspondant à Londres. On sortait l'antenne par la fenêtre dans la nuit venue.
Incroyable.
Donc il y a plein d'histoires comme ça qui reviennent. Stéphane nous dit, je me souviens aussi des grandes heures, des grandes ondes avec RTL. Enfin bon, il y a plein de... C'est marrant comme ça évoque et ça suscite un très grand nombre de réactions chez nos auditeurs.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a tous, auditeurs ou professionnels, on a tous un souvenir avec la radio.
Oui, moi j'écoutais le Gonzo, c'était Alain Chabat sur RMC, c'était formidable. incroyable ce qu'il faisait.
Et alors
José Arthur sur France Inter.
Vous évoquiez une baisse de l'écoute, enfin de l'audience des radios, c'est dû à quoi ? Est-ce que c'est un média de vieux ?
Alors, objectivement, c'est vrai qu'il y a un vieillissement des auditeurs. Je pense que c'est vrai que les plus jeunes sont plus portés vers des usages digitaux, numériques, avec l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Tout ça est certain. On voit qu'il y a une baisse depuis plusieurs années du nombre d'auditeurs. Ça a été, hélas, particulièrement vrai l'année dernière avec la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que les gens se déplaçaient beaucoup moins. Or, l'écoute de la radio en mobilité, particulièrement sur l'autoradio, c'est quelque chose de très important. Et si les gens ne se déplacent plus en voiture pour aller à leur travail, effectivement, ouais.
Ils ont préféré mettre la télé plutôt que la radio le matin quand
ils
étaient
assez nettement.
Quand ils étaient chez eux.
C'est vrai que la télévision a vu ses audiences grimper, les usages de plateformes de vidéo à demande par abonnement aussi, et que la radio a effectivement perdu un peu, a perdu un peu d'audience. Mais c'est une tendance assez lourde. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de, fatalité. Il appartient aussi aux radios. Je pense qu'aujourd'hui, le son est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde s'accorde à dire que c'est l'avenir. On voit les podcasts qui ont énormément de succès.
C'est le paradoxe.
On voit les nouvelles technologies directement liées au son et notamment l'intelligence artificielle. Donc on voit que le son a encore toute sa place et peut-être encore plus qu'avant. Donc la radio doit pouvoir trouver toute sa place dans ce concert, si vous me passez l'expression. Tout va se jouer maintenant dans les contenus, dans l'éditorialisation. Et ça, c'est un atout majeur des radios, par exemple, par rapport aux plateformes de streaming musical, puisque les radios musicales voient effectivement la concurrence assez rude des plateformes de streaming musical. Tout va se jouer dans l'éditorialisation, dans la capacité à faire que quand on va allumer la radio, on va se dire tiens, là je suis un peu plus à la maison que si je suis sur mon smartphone.
Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'elles sont devenues moins sulfureuses que dans les années 80, quand il y avait les Love in Fun? Enfin, Love in Fun existe toujours. Ouais. Mais
c'est la société, qui est devenue moins sulfureuse. Enfin, vous savez comme moi qu'il y a des choses qu'on disait dans les années 80 et pour lesquels on ne voyait pas de problème et qui aujourd'hui ne sont plus audibles. C'est vrai pour la radio, c'est vrai de la part d'humoristes. Alors en plus, ça, les humoristes occupent une place particulière à la radio, donc ça se télescope, mais c'est vrai d'une manière générale. Donc finalement, la radio, c'est un média de son temps. Oui. Et on parlait du son des années 80, il y a un son et des contenus des années 2020, qui ont évolué.
Ouais, absolument. Bah, écoutez, donc coup de lancement, c'est le lancement aujourd'hui de cette fête de la radio, c'est le compte à rebours. Ce sera le 31 mai pendant une semaine. La fête de la radio, les 40 ans de la FM. On en apprendra peut-être plus sur le DAB+, justement. En tout cas, c'est un sujet qui a passionné nos auditeurs. Merci Hervé Gauthier.
On compte sur vous aussi pour faire la fête.
On fera la fête.
Vous voulez pas qu'Hervé nous lance la pub, comme il faisait avant dans son ancien métier?
On se retrouve dans un petit instant. On va parler de Covid Tracker. C'est la référence. On va en parler avec son créateur Guillaume Rosier qui a 24 ans. À tout de suite.
Sud Radio, c'est comme ça que vous l'aimez.
Il faut des oxygénateurs de cerveau comme vous.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, Trina McDean.
Vous avez l'impression que votre partenaire s'éloigne de vous et vous voulez savoir s'il y a une autre personne dans sa vie et si votre histoire a encore un avenir. Alors appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif et médium Alexandre Delevan vous fera ses prédictions en direct et on vous dira tout sur le pouvoir de décision par l'intuition. À tout à l'heure.
16h17, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina McDean. Sud Radio, l'œil de l'expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, je suis en ligne et en zoom avec Guillaume Rosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en informatique, fondateur de Covid Tracker.
Alors déjà, en fait, je pense que c'est important de rappeler l'histoire parce que j'avais jamais anticipé la création du site internet, j'avais jamais prévu ça. J'ai commencé, en fait, si on retourne un tout petit peu dans le passé, j'ai commencé il y a plus d'un an maintenant, malheureusement. Et en fait, j'ai commencé à faire juste un graphique, une visualisation de données pour comprendre comment évoluait l'épidémie. Il y a un an, début mars, on parlait très très peu de l'épidémie. Encore, enfin, il y a un peu plus d'un an, entre le 5 et le 10 mars, on parlait très très peu de l'épidémie. En France, ça nous paraissait lointain, ça ne nous paraissait pas dangereux. Or, la situation commençait à devenir critique en Italie, notamment, donc dans notre pays voisin. Et moi, j'avais envie de comprendre comment évoluait l'épidémie en France par rapport à l'Italie. Est-ce que finalement, on était vraiment à l'abri ou pas ? Et donc, j'ai récupéré des données, j'ai fait cette visualisation de données. Donc, c'était tout simplement un graphique qui montrait le nombre de cas détectés de Covid en France et en Italie. Et puis là, en fait, ça m'a un peu choqué parce que j'ai remarqué qu'on avait exactement la même dynamique, la même explosivité, hein, la fameuse exponentielle, mais décalée, retardée de 8 à 9 jours. Ouais. Et donc, ça m'a un peu choqué parce que ça contrastait avec l'ambiance très décontractée, finalement. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a aucune raison que ça finisse pas, enfin, que la situation ne devienne pas aussi tendue en France qu'en Italie, vu l'évolution. Et donc, ce graphique, je l'ai partagé à 2-3 amis. Et puis, quelques jours plus tard, sur Twitter. Et puis en fait, ces quelques personnes ont commencé à être très intéressées pour avoir une mise à jour du graphique chaque jour, pour voir quelle était l'évolution au jour le jour, pour voir si on suivait toujours les pas tendus de l'Italie. Et puis au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu pénible de refaire le graphique à la main, de l'envoyer à mes amis par message sur Twitter, etc. Et donc, j'ai créé une page blanche toute simple avec le graphique dessus. Et c'était la première version de Covid Tracker. Après, elle s'est étoffée au fur et à mesure des mois pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est devenu assez stratosphérique, hein, puisqu'en février, par exemple, on a eu 1,5 million d'utilisateurs distincts, donc de personnes distinctes qui ont consulté le site uniquement sur le mois de février. Ça représente une quinzaine de millions de pages vues chaque mois, donc c'est absolument inimaginable. Moi, je n'avais jamais anticipé ça. Je ne pensais pas du tout que ça atteindrait de tels niveaux.
De tels niveaux, et vous vous êtes rendu compte à quel moment vous avez réalisé que c'était devenu un outil incontournable ?
Alors, l'outil a commencé à gagner en popularité vraiment au fur et à mesure des semaines et des mois, encore une fois, sans qu'on l'ait généré, finalement. C'est-à-dire que nous, on a amélioré le site de jour en jour, de semaine en semaine, en rajoutant des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils au fur et à mesure des mois qui permettaient aux gens de mieux comprendre l'épidémie, de mieux comprendre comment elle se développait, de mieux comprendre le niveau de gravité, de voir comment évoluait l'épidémie dans son territoire ou dans sa tranche d'âge. Et donc, le site a été de plus en plus consulté tout au long du printemps 2020, il y a un an. Ensuite, l'été dernier, hein, c'est retombé parce que les gens sont partis en vacances, parce qu'on parlait moins d'épidémie. Et puis après, à la rentrée, c'est là véritablement qu'il a commencé à être très utilisé, et notamment par des journalistes qui ont commencé à l'utiliser très, très régulièrement pour des articles, pour les JT de 20 heures, pour leur émission, etc. Et puis ensuite, des hôpitaux, comme le centre hospitalier, par exemple, de Grasse, qui m'a appelé pour me dire qu'ils utilisaient Covid Tracker quasiment quotidiennement en cellule de crise. Et puis ensuite, des politiques, hein, puisqu'aujourd'hui, il est utilisé visiblement par le président de la République et par Jean Castex en conférence de presse pour afficher quelques graphiques.
Mais c'est sidérant, donc, c'est sidérant qu'un jeune homme de 24 ans qui est totalement en dehors, enfin, vous êtes ingénieur, mais en dehors du système, j'ai envie de dire, soit devenu la référence utilisée même par le président de la République et le Premier ministre, et que ces données, finalement, personne n'ait eu l'idée de faire le travail que vous avez fait dans l'administration, alors qu'on ne va pas réénumérer le nombre de services de l'État qui auraient pu le faire.
Oui, et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que finalement, je n'ai jamais pris au sérieux Covid Tracker, dans le sens où je n'ai jamais anticipé, je n'ai jamais généré. Ouais. À aucun moment, je me suis dit, allez, je me lance dedans, et puis je vais faire un site super bien qui va être super consulté. À aucun moment, je me suis dit ça, parce qu'en fait, jusqu'à très récemment, jusqu'à quelques semaines ou quelques mois, je me disais, quelqu'un d'autre va le faire. Ce quelqu'un d'autre, c'est peut-être l'État. Ouais. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui est peut-être plus compétent que moi, ou un privé qui a plus de moyens que moi tout seul. Parce que je tiens à rappeler que ça a commencé, et c'est toujours le cas. Covid Tracker est développé le soir, le week-end. J'ai une activité principale. Aujourd'hui, on est une dizaine de contributeurs à Covid Tracker. c'est plus une initiative solitaire, mais on fait tout ça bénévolement le soir, le week-end, en dehors de notre métier ou de nos études la journée. Je me disais quelqu'un d'autre va faire ça. Ensuite, je tiens à rappeler quand même que ça n'aurait pas été possible sans les services de l'État. C'est-à-dire qu'on a Santé publique France qui fait un énorme travail de collecte des données. C'est pas moi qui collecte les données, par exemple le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de cas positifs, etc. Ça, c'est Santé publique France qui collecte ces données-là. Et puis ensuite, ils ont fait un énorme travail de mise à disposition de ces données-là en open data, c'est-à-dire qu'ils publient ces données-là de manière transparente et exhaustive et régulière tous les jours. Et nous, c'est ce qui nous permet de faire Covid Tracker, hein, puisqu'on se nourrit de ces données, on est branché directement sur ces données. Donc, sans les services de l'État, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui.
Mais ça a été compliqué de récolter ces données, parce que c'est pas comment vous y êtes pris justement, parce que c'est pas des données qui sont forcément accessibles à tout le monde. Et comment ça s'est passé?
Alors, ça dépend de quel type de données on parle. Aujourd'hui, le Covid Tracker est entièrement branché sur de l'open data, donc sur des données qui sont accessibles par tout le monde, qui sont libres, gratuites, officielles et accessibles par tout le monde. Mais à certains moments, on a dû, c'est sûr, demander de manière très insistante à ce que certaines données soient publiées, parce que toutes les données n'ont pas forcément toujours été publiées. Pour les données hospitalières, Santé publique France a très rapidement publié des données il y a un an. Pour le dépistage et les cas positifs au coronavirus, ils ont aussi publié des données dès qu'ils le pouvaient en mai dernier. Par contre, on a d'autres données qui n'ont pas été publiées suffisamment rapidement à notre goût, comme par exemple les données sur la vaccination. On a dû réellement faire de nombreuses demandes pour qu'elles soient publiées, et ça a duré longtemps. Et les données, par exemple, sur les variants, le nombre de cas issus du variant anglais qui nous préoccupe beaucoup, ont été publiées très tardivement, quasiment 2 mois après qu'elles aient commencé à être collectées. Et donc c'est problématique parce que ça ne nous a pas permis d'anticiper la montée en puissance du variant anglais. On savait que le variant anglais montait en puissance, mais on ne savait pas dans quelle proportion précisément. Et donc ça ne nous a pas permis d'anticiper l'évolution actuelle.
Ouais.
Enfin, pas aussi bien qu'on aurait pu sinon. Mais donc, on a quand même beaucoup de données qui sont publiées en open data. Donc, je tiens à remercier tous les services impliqués. Ouais. Mais il faut aller plus loin. Il faut qu'on ait plus de données en open data, plus précises, plus exhaustives.
Ouais. Lire un graphique, lire des chiffres, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. On a vu, il y a eu plusieurs polémiques sur l'interprétation. Vous publiez ces courbes. Après, chacun les interprète. Où les chiffres sont les chiffres et il n'y a pas de discussion possible. Il faut savoir les lire, vos courbes, quand même.
Ah oui, oui, ouais. Exactement. Et c'est pour ça qu'on essaye de guider un maximum l'utilisateur. On essaye d'éviter les pièges. Mais faire une courbe, c'est déjà éviter la plupart des pièges. Par exemple, je donne un exemple tout simple, mais le nombre de décès quotidiens à l'hôpital de la Covid varie énormément. Aujourd'hui, on le sait très bien, varie énormément suivant les jours. Ouais. C'est-à-dire que le samedi, le dimanche, on a beaucoup moins de décès ou même de cas, hein, c'est vrai aussi, qui sont reportés parce qu'on a moins de personnel qui saisit ces données-là dans les systèmes d'information. Et puis, à contrario, le lundi, mardi, on a un gros rattrapage de toutes les données qui n'ont pas été saisies le samedi, dimanche. Donc, on a des données beaucoup plus élevées. C'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut vraiment pas, et ça, c'est très important, il ne faut vraiment pas comparer les chiffres bruts, il ne faut pas du tout comparer le nombre de décès aujourd'hui avec le nombre de décès hier, ça n'a pas de sens. Et à partir du moment où on fait un graphique, automatiquement, on évite ce piège puisqu'on se rend bien compte du motif hebdomadaire qu'on observe avec donc des pics en début de semaine et des creux en fin de semaine. Et donc, on se rend compte uniquement en faisant un graphique que ce n'est pas intelligent de raisonner de cette manière-là.
Oui.
Donc, je tiens à rappeler que faire un graphique, c'est aussi contextualiser les données. Et donc, c'est éviter un certain nombre de pièges. Maintenant, évidemment, l'interprétation des graphiques peut être subjective. Il faut faire très attention. Et donc, pour ça, on essaye d'éviter un certain nombre de pièges et on essaye de guider l'utilisateur en indiquant quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber.
Mmh. Où on en est aujourd'hui de ce que vous voyez? Parce qu'on parle de troisième vague, de quatrième vague, de creux, de reprise. Est-ce que c'est une chose que vous pouvez préciser à l'instant où on parle?
Oui, alors aujourd'hui, alors si on prend un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, je vais retourner jusqu'à début décembre très rapidement. On avait 10 000 cas par jour. Donc un virus qui circulait beaucoup, mais pas non plus énormément. Ensuite, ça a augmenté jusqu'à fin janvier, jusqu'à à environ 20 000 cas, donc ça a doublé. Et puis après, entre fin janvier et il y a trois semaines, on avait un nombre de cas qui était relativement stable, des moments qui diminuaient, des moments qui montaient, mais qui était globalement compris entre 20 et 25 000 cas par jour. Donc c'était une circulation virale qui était élevée, mais relativement stable d'un jour à l'autre et d'une semaine à l'autre. Depuis deux semaines environ, on a une envolée du nombre de cas avec une croissance assez forte, malheureusement. Donc aujourd'hui, on détecte 20% de cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ça signifie que le nombre de cas double toutes les trois semaines environ. Mmh. Donc on a véritablement une envolée de l'activité épidémique, en tout cas une envolée du nombre de cas détectés. Et malheureusement, les hôpitaux sont aussi de plus en plus sous tension avec des admissions à l'hôpital et en soins critiques, services de réanimation qui sont là aussi en forte augmentation. Aujourd'hui, on a entre 400 et 500 admissions chaque jour en soins critiques. C'est au niveau du pic de la deuxième vague, c'est même supérieur au niveau du pic de la deuxième vague en novembre dernier.
Mmh. Ben écoutez, et donc vous allez continuer à collecter ces données sur la vaccination aussi. Là, c'était plus compliqué pour vous à faire?
Oui, c'était un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je parlais de certaines données qui avaient été plus compliquées à obtenir. Sur la vaccination, c'était un peu plus compliqué. Pendant deux ou trois semaines, on n'avait pas ces données-là. Donc, on a dû batailler un peu, les demander avec insistance. On a fini par avoir un open data. Donc, elles ont été publiées de manière quotidienne. Et désormais, elles sont toujours publiées de manière quotidienne. Et donc, on utilise directement ça pour Vaccin Tracker, qui est un outil de Covid Tracker et qui permet de suivre la campagne vaccinale en France.
Très bien. Bah, écoutez, merci Guillaume Rosier d'avoir été avec nous ce matin. On vous félicite pour ce que vous avez fait, ce site que tout le monde peut aller consulter. Encore une fois, pas toujours facile de s'y retrouver, mais je pense que ce Covid Tracker a eu un impact réel sur le débat public et sur la connaissance de la progression du virus. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio.